Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Jennifer Guillet.
Bonjour.
Marie Folcon.
Bonjour.
Et de Robert Rivard.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre émission aujourd'hui aura comme thème « Ne pas se désobéir ». Ça vous est certainement arrivé un jour d'avoir une intuition et en y réfléchissant un peu, de faire le contraire. Vous imaginez que vous vouliez tourner à droite, ben vous vous dites « Oh non, mais non, il faut que j'aille à gauche. » Et puis qu'après quelques temps, vous réalisez que vous avez fait une erreur, que la première impression était la bonne. Et quand je parle de s'obéir, c'est un peu dans ce sens-là que je vais en parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'écouter sa première intuition, d'écouter ce que notre voix intérieure nous dit. Avez-vous des exemples ou
j'ai aucune idée de quoi
non.
Tu parles.
Non, vraiment, j'ai pas d'exemple. Angélique, t'en as?
Moi, ça m'est arrivé dans les magasins, ça. Enfin, ça m'est arrivé en allant. Souvent, des fois, je me dis, c'est des petites intuitions comme ça, mais je me prépare à aller quelque part, faire je sais pas quelle course, pas très super intéressante. Et puis, je pense, ah oui, mais si c'est fermé, qu'est-ce qui va se passer? J'écoute pas mon intuition, j'y vais, c'est fermé. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, c'est toujours passé des catastrophes monumentales. Donc maintenant j'écoute. Au moins, quand je le fais, ça marche mieux.
Non, on te dit, si c'est fermé, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Qu'est-ce qui devait se passer?
Non, mais rien, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu du temps. Alors que si je m'étais écoutée, j'aurais pas perdu de temps. J'aurais pu faire autre chose de plus essentiel que ça.
Je pense que ce qui est important que tu as mentionné, Nicolas, c'est justement la première idée. Celle qui vient en premier, absolument, c'est la meilleure. Mais quels sont les... C'est quoi ces mécanismes-là? Quels sont ces obstacles-là qui empêchent l'écoute de cette première
intuition? Le doute.
Moi, je dirais que le mental se met souvent entre les deux. Par exemple, moi, un bon exemple, quand quelqu'un meurt, souvent, les gens sont submergés d'émotions, ils perdent le contrôle totalement, ils ne sont plus à l'écoute. Moi, il y a quelques années, mon chat est mort. Ça faisait 9 ans qu'il était avec moi, et puis il est mort dans ma maison. Et moi, je suis pas très... émotionnel, donc je me suis couché sur mon lit, très relax, le corps de mon chat était encore dans la maison, et là je me suis branché avec lui, au début je l'ai visualisé, puis là soudain il était là, il s'est connecté avec cette visualisation, et il a commencé à me parler, il a commencé à me dire des choses comme son rêve c'était de sortir de la maison, il n'avait jamais sorti, il m'a dit un paquet de choses sur les autres, j'avais deux autres chats, il me disait « Ah, ils sont pas mal capricieuses », tu sais, puis il me disait qu'il comprenait pourquoi, par exemple, je m'occupais pas toujours de lui, parce que c'est quand je travaillais sur mon ordinateur, lui, il pensait juste que j'étais assis à rien faire, fait qu'il venait me voir, mais je m'occupais pas de lui. Mais j'étais à l'écoute, et puis chaque fois que quelqu'un meurt, si on n'est pas à l'écoute, je pense qu'on perd beaucoup, beaucoup d'informations, parce qu'ils sont juste là, sont encore là, prêts à nous parler souvent. Et ça, c'est un exemple d'être à l'écoute de l'invisible, à l'écoute de nos sentiments.
Oui. Et en même temps, avec être à l'écoute, c'est aussi parfois avoir à dire non merci aux distractions qui nous empêchent justement d'écouter cette voix-là. Parce qu'une fois qu'on l'a écoutée, ça veut dire qu'on doit faire un cheminement, on s'en va dans une direction particulière. Et si tu écoutes toutes sortes de distractions qui vont à côté de ça, tu vas peut-être justement manquer à manifester ton inspiration. Donc, être à l'écoute et ne pas se laisser distraire, ce serait peut-être l'autre aspect du volet de cette chose-là.
Mais tu vois, moi j'ai appris beaucoup par les femmes. Surtout par une femme. J'ai été longtemps avec une femme qui était extrêmement intuitive, qui écoutait justement son inspiration, que le matin, elle disait « Ok, je vais à mon travail. » D'habitude, elle y allait en vélo. Ce matin-là, elle dit « Non, je vais y aller en taxi. » Et la voir travailler comme ça, puis voir se réaliser les choses dans sa vie, j'ai peu à peu, moi aussi, intégré ça, parce qu'on ne m'avait jamais enseigné ça. Chez moi, c'était pas quelque chose de naturel d'écouter l'invisible. Alors que pour elle... Cette intuition était très importante, donc je l'ai, peu à peu, en la regardant faire, un peu comme un professeur, je l'ai impliqué dans ma vie. Mais j'avais déjà cette manière d'être dans d'autres domaines, par exemple dans l'art ou dans ma vie. Par exemple, quand j'ai terminé l'école, j'en ai déjà parlé, mais quand j'ai terminé l'école à 24 ans, je suis arrivé à Montréal, puis j'ai dit, j'ai réfléchi un peu si je voulais travailler, puis j'ai réalisé que je ne voulais pas travailler. Et en fait, pour moi, c'était un peu justement d'enlever toutes les distractions, une fois pour toutes, pour être artiste à 100%, parce que je savais que si je commençais à travailler à temps plein, ça n'allait pas marcher, puis j'allais perdre mon temps et mon énergie, alors que j'aurais pu tout simplement me consacrer. Et tu vois, moi, je l'ai fait, mais ça prend une force pour être capable de dire non merci aux distractions, à ce que les autres pensent, etc.
D'ailleurs, l'autre affaire, c'est l'intuition. Quand on dit écouter son intuition, je ne sais pas si on fait un tour de table, comment on définit cette intuition? C'est comment vous la définissez, vous autres? Parce qu'on pourrait dire l'intuition, je donne un exemple. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose qu'une voix qui me parle dans l'oreille gauche. T'sais. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être... Mais l'intuition, pour moi, c'est un chatouillement sur la fesse droite ou quelque chose comme ça. Alors, je fais juste des allégories, des folies, là, mais dans le sens... Quel est votre sens, vous autres, de l'intuition, cette voix qu'on est supposé d'écouter la première fois?
Moi, je pense que je rejoins assez Nicolas sur le côté... T'sais, il parlait de l'invisible.
Oui.
Pour moi, ça serait assez proche de ça. Enfin, c'est mon intuition, c'est pas spécialement la mienne, c'est l'intuition de manière générale. Je pense que ça vient, on sait pas tellement d'où ça vient, remarque, mais c'est plus pour moi, c'est ce côté-là, en fait, être à l'écoute d'un invisible ou d'un possible un peu différent. Puis ça, moi, c'est pas vraiment une voix, là. Je peux pas dire j'entends une voix, c'est pas ça, mais c'est comme une sensation que, ah, ça, ce serait le bon chemin à suivre. Après, c'est pas comme des mots qui s'impriment quelque part ou c'est pas aussi clair que ça. Donc après, je sais pas toi, Marie, mais...
Ben moi, c'est au niveau de l'âme, hein, je l'entends, puis voilà. Mais l'intuition, c'est quelque chose qui, par rapport à la pensée, moi je ferai une comparaison avec les deux, il n'y a pas cette poussée, cette impulsion qui fait que ça te pousse à le faire par rapport à une pensée. Une pensée, tu as une pensée, ça s'arrête là. Alors que l'intuition, ça va être quelque chose qui va te titiller, puis qui va te pousser à aller voir si t'as vrai ou pas vrai là, c'est. Mais aussi le phénomène justement avec une fois j'avais donné l'exemple du positivisme qui me mettait le bâton dans les roues par rapport à une intuition qui était négative, comme justement le magasin qui est fermé, puis tout de suite, surtout s'il y a quelqu'un en plus de ça à l'extérieur qui fait oh, t'as l'air de dire t'es négative, alors moi je me dis bah ouais, c'est vrai, il faut être positif, non il va être ouvert, il va être ouvert, puis finalement il est défermé. Donc il y a aussi ce phénomène là que tu te mets le bâton dans les roues, enfin le mental te met le bâton dans les roues en disant ah t'es négative, t'sais. Alors qu'en fait c'est l'intuition, puis l'intuition t'as toujours vrai avec ça, t'sais.
C'est pas facile, hein? C'est subjectif, l'intuition. C'est pas une chose qui est nécessairement qu'on peut définir avec une règle précise.
Mais il y a aussi des intensités qui varient aussi, parce que plus tu évolues, plus l'intensité va être forte. Et aussi, il faut surtout pas attendre. C'est-à-dire, dès que tu as une intuition, par exemple, OK, je vais oublier mes clés ou je vais oublier une bouteille d'eau, il faut que tu le fasses tout de suite. OK, je prends ma bouteille d'eau, même si c'est une demi-heure après que tu vas partir, il faut le faire tout de suite, parce que sinon, c'est sûr que tu l'oublies.
Puis des fois, c'est une sensation aussi. Tu sais, c'est parce que là, tout à l'heure, je parlais de ça. Je disais, c'est plus... Tu sais, je me suis dit, si le magasin est fermé, puis c'était plus fort que juste une pensée, mais voilà. Mais c'est vrai que des fois, c'est des sensations très fortes.
Moi, je suis plus proche de cette définition-là, mais c'est un peu une combinaison, une convergence, une sensation avec une pensée, une image, puis il y a quelque chose que tu vois ou que tu ressens. C'est comme un flot d'informations. C'est une information qui vient, mais elle n'est pas nécessairement auditive, elle n'est pas nécessairement visuelle, elle est plus ressentie que d'autres choses.
Ah, c'est ça, on parle, hein. Une sensation, là, un senti. Là. Par contre, il y a deux choses aussi, il y a les informations extérieures et les informations intérieures. L'information qui devient ta propre conscience, ta propre âme, peu importe comment tu l'appelles, et aussi l'information extérieure qui peut être d'autres entités également. Donc là, après, c'est selon ton niveau, là, tu peux voir, c'est par rapport au taux vibratoire de l'information que tu peux savoir si c'est ton âme ou si c'est à l'extérieur, mais ça, c'est un autre niveau.
Je pense qu'il y a une notion d'entraînement pour certains. En tout cas, pour moi, c'était naturel dans certains domaines. C'était clair que depuis mon enfance, j'ai dit non merci à un paquet de choses. Mais les niveaux les plus subtils, ça, j'ai dû m'entraîner. J'ai commencé à avoir beaucoup d'expériences mystiques vers l'âge de 28 ans, à commencer à faire de la télépathie comme ça se peut pas. J'entendais les gens penser. Et des fois, je me disais, c'est-tu juste moi? Et je faisais des rêves complètement hallucinants avec les gens que j'aime. Et puis, au début, je les appelais. Je disais, bon, j'ai rêvé à toi cette nuit. Puis souvent, je me suis rendu compte qu'eux, ils avaient rêvé à moi. Et c'est arrivé des fois qu'on avait rêvé au même endroit. Et c'est même arrivé une fois, j'étais avec ma mère, mes deux sœurs et mon ancienne compagne, et puis on était toutes à la même endroit. dans la maison chez mes parents, dans le même rêve. Alors que c'était plus un rêve à ce moment-là, c'est une rencontre dans le monde subtil. Donc, peu à peu, j'ai arrêté d'appeler les gens parce que j'ai commencé à me faire confiance parce que ça fonctionnait toujours, ou pratiquement toujours. Oui. Donc, avec le temps, j'ai commencé à faire confiance à mes intuitions. Quand j'entends, quand je pense à quelqu'un, je sais que cette personne-là pense à moi. Je peux en général savoir pourquoi elle pense à moi et puis ce qu'elle pense aussi. Les émotions, en tout cas, les émotions qu'elle ressent, etc. Donc, j'ai appris ça. Donc, ça, c'est un plus pour moi qui, maintenant, veut être beaucoup plus attentif à l'invisible parce que je crois qu'il y a comme un... Ça, c'était de la théorie de 2012. On sait, c'était que on est comme... Ça devient de plus en plus rapide. À un certain niveau superficiel, c'est de plus en plus rapide. Donc, ouais. Il faut être rapide. Ouais. Et tu n'as plus de place à l'erreur et au doute. Il faut maintenant faire confiance sur son intuition. Ça va vite, il faut que tu sois au bon endroit, au bon moment. Et c'est là que les synchronicités deviennent importantes. Et ceux qui ne sont pas capables, ceux qui ne seront pas capables dans les prochaines années, je crois qu'ils ne vont tout simplement pas être capables de survivre aux grands changements qu'il va y avoir sur la Terre.
Oui.
Mais on va faire une pause musicale avec El Matador et une chanson qui s'appelle Polémiquement Incorrect. Et on revient après la pause avec ce thème, Ne pas se désobéir.
Ils voudront me stopper dans mon petit élan. Je fais aucune différence entre Marc Dutroux et Frédéric Mitterrand. En tant que rappeur, je me mêle, j'ai un cœur de rebelle. Je suis un peu comme Dieu donné face aux placeurs de quenelle. Dans ce pays qui va mal, je viens dénoncer qui banane. Au lieu de voir les vrais problèmes, ils polémiquent sur le quick halal. Rien qui nous parle de laïcité. On sait très bien qu'une rue du 16e ne vaudra jamais d'y citer. Ils assimilent les Roumains avec la mendicité. Oublie les parachutes dorés, retraite anticipée. Une beurette libertine. Partoucheuse de limousine, ils t'en feront une parfaite présidente de ni pute ni soumise. Et si la France m'a jamais dit je t'aime, c'est qu'elle doit être frigide comme Nadine Morano ou bien Marine Le Pen. J'ai de la peine pour ces soldats morts en Afghanistan. Dans une guerre, y'a jamais de match nul à la mi-temps. Et le colon israélien a plusieurs déguisements. Ils nous font croire que c'est presque un arabe dans la vérité si je mens. Quand les tirailleurs étaient à Verdun, ils se battaient comme des lions, pas comme des nègres. Donc allez le dire à Guerlain. La fin du monde arrive à pas de géant. Les mécréants. Après avoir eu Tripoli, on veut la Téhéran. Un coup d'épée dans l'océan, j'ai des propos gênants. Je donne 100 billets à celui t'as l'argent, vite tête à Claude Guéant. Je suis pas le descendant de Jacques ou il a fribouille à part ça. Toutes les civilisations ne se valent pas. Si le diable veut mon âme, je lui dis non merci sans façon. Je suis pas Jay-Z qui lui tous les jours remercie les francs-maçons. J'en veux aussi aux rappeurs des magots, obsédés révolutionnaires dans leur disque. Jamais sur un plateau télé, ils perdent leurs couilles devant Ruquier ou Michel Denisot. Ils veulent rentrer dans le moule par de leur rap qu'à demi-mot. Les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. T'en as rien à foutre quand t'as zic de paye ta Ferrari Enzo. Où sont les Brassens, les Coluche, les Balavoine? Sois sûr que si t'es étranger, tu passeras pas la douane. J'ai pas la vision d'Obama mais celle de Farrakhan. Ils sont choqués de voir James avec un voile et pas Zaya à poil. Fais pas l'unanimité, un maghrébin dans le game. J'aurais vendu plus de disques si j'avais été blanc ou crêle. Le racisme existe parce qu'un roubeux dans le hip-hop, pour eux c'est un pantin avec une crête qui parle sans ventriloque. Ils veulent une musique pour bobo qu'on entende leur son dans des galeries d'art avec plein de samples de jazz bizarre. Alors les sons vintage sont redevenus à la mode. Les nouvelles stars sont des petits bourgeois qui se démontent à la drogue. Ils ont juste le mérite d'avoir un public qui achète. Dans ce monde à l'envers, c'est Monsieur Seguin qui suit la chèvre. À l'heure où je parle, j'ai des frérots qui sont en QHS et d'autres avec des petites minettes qui fument des chiches à fraises. Des triples disques d'or, tu chantes comme un RMiste. Tu nous parles de misère alors que t'es lié à CP6. Dites-leur qu'il n'y a aucune chambre à gaz dans les mosquées. Dites-leur que le peuple palestinien a le droit de se révolter.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est ne pas se désobéir. La majorité des gens se désobéissent la majorité du temps pour faire plaisir aux autres. Vous avez tous rencontré des gens comme ça qui passent à côté de leur vie pour faire plaisir aux gens et qui finalement sont très très malheureux et insatisfaits dans leur vieil âge. J'ai rencontré plusieurs femmes qui ont été détournées par leur père. J'en ai rencontré qui voulaient être danseuses, par exemple, et puis le père, il les a emmenés dans l'informatique, par exemple, parce que c'est plus payant. Étant artiste, j'ai beaucoup d'amis artistes, et c'est presque toujours la même histoire. On me dit, mes parents voulaient rien savoir, ils voulaient que je fasse autre chose. Dans mon cas, c'était un peu la même chose, mais ils m'ont pas mis les bâtons dans les roues, mais il n'y avait pas de compréhension non plus. C'était comme si c'est évident que je faisais une erreur en voulant être un artiste. Et ça ne m'a pas dérangé tant que ça, parce que pour moi, c'était très important d'obéir à mon idée maîtresse, qui était d'être un BDiste, d'être un artiste. Et puis, j'étais prêt à tout. J'étais même très pauvre à un certain point, j'avais presque rien. Sauf que j'étais hyper heureux parce que je pouvais dessiner toute la journée. J'avais tout mon temps pour être moi-même. Et ça, c'est important parce que toutes ces femmes, par exemple, que j'ai rencontrées qui sont rendues à 40 ans, 50 ans, qui sont désabusées parce qu'ils écoutent encore leur père, même des fois le père est mort, puis ils vont continuer encore dans cette voie. Et puis leur petite voix leur dit non, je veux faire de la danse, je veux faire d'autres choses. Mais c'est très important, à mon avis, de s'écouter à ce niveau-là. Tantôt, on parlait des intuitions, mais il y a aussi ce désir. C'est quoi le désir? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre, par exemple?
Oui. Et cet aspect-là, qui vient de la famille directe, il y a aussi l'aspect social dans l'école, avec tes camarades écoliers, tout ça, qui peuvent aussi faire une pression pour te conformer ou t'amener, que ce soit le système éducationnel, que ce soit les étudiants ou quoi que ce soit. Tu as aussi cet élément de pression-là qui t'amène aussi à te conformer, qui fait une pression directe ou indirecte sur toi. Donc, c'est multifacette. Tu sais, c'est un aspect de multiples facettes. Qu'est-ce qui nous amène à ne pas être à l'aise? Hein? Le combat est multiple.
Il y a même des gens, tu sais, chargés au niveau de l'orientation. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, tu sais, on me pose des questions, est-ce que tu vas aller après, dans quelle fac tu veux être, etc. Et moi, pour moi, c'était très clair que passer le lycée, moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était chanter. De toute façon, donc pour moi, c'était très clair qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Et il y avait quelqu'un qui est venu en classe, voilà, qui était chargé de nous orienter. Elle pose plein de questions, il y en a plein qui disent médecine, enfin, etc., etc. Et moi, quand arrive mon tour, je lui dis, ouais, mais les écoles de comédie musicale, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a ici? Puis comment elles sont? Comment ça se passe? Alors, elle me dit, non, mais un vrai métier. Et j'ai dit, bah, c'est un vrai métier. Et moi, c'est ça que je veux faire. Donc, si vous n'avez pas la réponse, on ne va pas pouvoir se parler vraiment, quoi. C'était, puis tous les camarades de classe, bon, à part ceux qui étaient mes amis et qui m'avaient déjà entendu chanter, majoritairement, les gens étaient, non, mais elle est complètement... Enfin, ils sont foutus de ma gueule, quoi. Et moi, pendant longtemps, ouais, ça a été très... Non, faut pas... Mais moi, j'ai quand même été poser la question, puis je l'ai forcé à aller chercher. Donne-moi une école de comédie musicale si c'est ton travail, je veux que tu la trouves, puis tu cherches. Et j'ai fini par avoir ma réponse. Je suis allée ailleurs finalement, mais quand même, j'ai eu ma réponse.
Ok, excellent.
Bon, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est pas productif, c'est pas utile, mais l'art est extrêmement utile à mon avis. Si on n'avait pas l'art sur la planète, je pense que ce serait un moment extrêmement noir de l'humanité. L'art amène la beauté.
Moi, quelque part, je trouve que c'est logique tout ça, parce que justement, le mental, c'est pas lui qui va t'amener à ce que tu crées, ça va être l'âme, la conscience. Donc, obligatoirement, toutes les structures de société sont faites par le mental, donc c'est sûr qu'ils vont rejeter la créativité. Mm-hmm. Donc, c'est plus qu'évident pour moi que d'un seul coup, ils vont dire un vrai métier, parce qu'ils veulent pas que tu ailles de ce côté-là, déjà. Et puis, le mental, c'est lui qui domine. Donc, c'est sûr qu'il ne va jamais t'amener vers la conscience. Là. C'est pas sa job, c'est le contraire. Sa job de t'amener loin de la conscience. Ça fait que, justement, loin de la créativité.
Et je pense que l'art, ça peut vraiment te connecter à l'invisible aussi. Moi, j'ai juste un exemple de... Je me souviens, il y a quelques années, j'ai perdu ma grand-mère, dont j'étais extrêmement proche. Et elle adorait ma voix. Et depuis toute jeune, elle me faisait chanter. Donc, elle m'encourageait un peu là-dedans. Et puis, quand est venue son enterrement, j'ai décidé que moi, j'allais chanter. Ce jour-là, donc, et puis tout le monde disait, t'es sûre, tu vas y arriver? Je disais, c'est même pas une question d'y arriver, c'est je vais le faire pour elle. Puis je chanterai pas pour les gens qui sont là, pour les guérir ou quoi que ce soit. Je vais le faire pour lui dire, moi, au revoir. Donc j'ai chanté une chanson, j'ai pris le micro, etc. J'ai chanté une chanson. Puis je me souviens, je l'ai vraiment chanté juste pour elle. J'en avais rien à faire que ce soit les gens autour. C'était pas pour eux, ça s'adressait pas à eux. C'était vraiment pour ma grand-mère que j'ai chanté. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il faisait très, très gris, ce jour-là. Puis le ciel a changé. Puis je me souviens d'avoir senti que l'atmosphère changeait à ce moment-là. Et je me suis dit, peu importe. En tout cas, moi, j'ai pensé que ça avait été reçu quelque part. Et donc, ça m'a connectée. À ce moment-là, je me suis sentie connectée. Je me suis dit, comme quoi, l'art, ça aide à ça. Puisque probablement, si j'avais juste dit quelque chose, ça n'aurait pas fait le même effet que ça a eu. Donc après, on est libre de croire ou pas, peu importe. Mais moi, je sais que ça... J'ai eu la sensation profonde que ça avait été reçu et entendu. Et j'ai pu dire au revoir beaucoup plus sereinement. Et pourtant, c'est quelqu'un de vraiment très, très, très important pour moi. J'ai pu dire au revoir plus tranquillement après avoir chanté.
Belle histoire.
Mais on ne peut pas faire bâtir sa vie avec des réflexes de soumission. On ne peut pas être toujours soumis et s'attendre à réaliser nos rêves. Il faut se lever debout et il faut dire non, merci à un certain point.
D'ailleurs, ça m'amène à penser, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de H, ici, dans le cas ici de l'exemple, H s'appelle A-S-C-H, et c'est l'expérience de conformité, où on fait dans un laboratoire un test très simple, il a amené 6 personnes, 5 personnes étaient complices, et il n'y avait seulement qu'une vraie personne qui était là pour prendre le test. L'idée, c'était de montrer des cartons devant la classe, de lignes verticales dessinées comme un groupe de 5 lignes. Et il y en avait une qui était plus petite que les autres. Et puis, il passait, là, il y a un homme à l'avant qui demande au groupe, quelle est la ligne la plus courte sur la chose, tu sais, sur le carton? Puis mettons qu'elle était à l'extrême droite. Alors, le premier dit, oh, c'est la dernière à gauche. Puis le deuxième fait exprès faire la même chose. À un moment donné, vient le tour au gars qui n'a aucune idée, de, qui est là, le vrai là, candidat. Puis par la pression de conformité, il répond la même réponse que les 4 autres avant lui. C'est un test qui s'est fait, puis ça a montré qu'il y a 30 à 40 % du peuple ou des gens qui vont se conformer puis qui ne vont pas dire la vérité, donnant la pression des gens à côté d'eux. Fait que c'est quelque chose à réfléchir. Vous pouvez le regarder, c'est sur
Wikipédia. Ça, c'est encore la vérité par rapport au nombre, en fait. Mm-hmm. C'est... S'il y a, je sais pas, 50 personnes qui vont dire non, bah l'autre qui veut dire oui, il va dire non quand même parce qu'il y en a 50 qui ont dit non.
C'est ça. Donc, c'est très prévalent, c'est très dans la société, cette conformité.
Ben moi, en tout cas, quand j'ai décidé de me mettre sur l'aide sociale, je te jure que j'ai senti la désapprobation. Dans ma famille, j'étais un perdant. Dans la société, j'étais un, tu sais, quelqu'un qui prend l'argent des autres, qui était aussi un perdant, qui, tu sais, vraiment, là, c'était incroyable. Puis dans la famille, mes parents n'osaient pas en parler. Pourtant, je me réalisais, j'ai fait des œuvres incroyables à ce moment-là. Mais je ne me conformais pas. Mais moi, je m'obéissais. Et je suis heureux maintenant. Je suis vraiment satisfait d'avoir vécu cette période-là avec moi-même, d'avoir pris le temps de réfléchir, de un peu faire tomber la poussière. Je pense que quand toi, là, je travaille présentement, puis souvent, je suis épuisé le soir. Je travaille toute la journée sur mon ordinateur. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour travailler sur mon nouveau livre, par exemple. À l'époque, j'avais toute mon énergie et j'avais beaucoup de clarté. Mm-hmm. Mais moi, j'avais mis dans ma vie des gens qui sont intelligents. Là. Je suis peut-être pas un exemple de quelqu'un qui est sur l'aide sociale. La majorité des gens qui sont sur l'aide sociale, c'est beaucoup des gens qui n'ont pas d'éducation, qui ne sont pas capables de trouver d'emploi et qui finalement en deviennent un peu des esclaves.
Oui. Mm-hmm.
Moi, c'était une bouffée d'air parce que ça faisait, je me rendais compte que ça faisait 23 ans que j'étudiais, donc 20 ans que j'étudiais, là, que j'avais un baccalauréat, puis je pensais qu'après, j'allais faire ce que je voulais. Puis là, je me rendais compte que c'est pas vrai, que quand tu as fini l'école, on continue quand même de te dire quoi faire. On t'a programmé depuis l'enfance à être un soumis. Et puis, je voyais très bien que si je prenais pas l'occasion à ce moment-là, j'étais fait, que j'allais me conformer, puis que j'allais jamais être libre. Alors, j'ai dit, mangez donc tout de la...
Ouais, okay? ça prend du caractère, c'est sûr, ça prend de la volonté, là.
C'est ça, mais j'avais confiance en moi totalement, tu sais, j'avais pas peur de rien, puis...
Ouais, parce que c'était comme le mouton noir, hein, je veux dire, moi j'ai été le mouton noir toute ma vie, là. Même toute petite, là, puis quand t'es petite, tu te demandes pourquoi qu'ils disent tous non, et moi, je dis oui. Puis là, je le dis, c'est là, c'est l'enfer si tu le dis, là.
Ouais.
Surtout quand t'es petit, là, oublie ça, là, avec la famille et tout. Moi, c'est pareil, par exemple, quand mon frère s'est marié, moi, j'ai toujours été actrice, là, aussi, puis non, quand il s'est marié, là, il y avait le témoin, là, pour le mariage, puis moi, j'ai été le témoin, puis en fait, quand ils ont commencé à dire mon nom, tout ça, et puis le travail, c'était étudiante. Ma mère est étudiante, j'étais comme ok, ils avaient honte quoi.
Ouais. Moi, j'aimerais ça, mais j'aime ça être étudiant. C'est un statut intéressant. D'ailleurs, on l'est dans la vie dans une certaine mesure si on est ouvert.
Mais c'est vrai qu'il y a des classes qui sont difficiles à classifier. Moi, j'étais inclassifiable aussi. J'étais quoi? J'étais artiste, mais dans la société, j'avais aucune fonction. J'avais pas un travail en particulier, donc. C'était comme une zone grise, là, on ne savait pas où me mettre.
No future.
Mais tu sais, je faisais...
Ouais. C'est ça, tous les artistes, c'est la même chose. Hein. À part si tu es connu à un moment donné, ou là, quand tu meurs, c'est ça le mieux encore, quand tu meurs. Là.
C'est vraiment une maladie de reposer notre définition sur une étiquette de la société. C'est vraiment...
Eh bien, on va faire une pause musicale avec Gérard Lenormand et Zaz, une chanson qui s'appelle « La balade des gens heureux ». Et on revient après la pause avec ce thème « Ne pas se désobéir ».
La balade, la balade. te chanter la balade, la balade des gens heureux.
Tu n'as pas de titre ni de grade,
non, non.
Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux.
Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux.
Tout ce que tu veux.
On t'offre un titre formidable,
la balade des gens heureux.
On t'offre un titre formidable,
la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter.
C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter
la balade des gens heureux.
On vient lui chanter
la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est ne pas se désobéir. Moi, j'ai quelque chose que j'ai remarqué. Quand on parle d'intuition négative, tantôt, on a donné beaucoup d'exemples de bon, le magasin, etc. Quand c'est une intuition négative, c'est souvent très facile à détecter. Mais c'est quand c'est quelque chose de positif, là, c'est difficile. C'est parce que les gens ne sont pas habitués. Et ils disent, quand on dit, ne va pas là, fais pas ci, on dirait qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit très fort de ne pas le faire. Mais quand c'est positif, va, fais ça, fais ci, c'est toujours plus subtil. Et c'est là que ça demande beaucoup, beaucoup d'écoute. Et bon, je sais pas, peut-être que vous avez des exemples dans ce sens-là où ça vous est arrivé dans votre vie, là, où c'était plutôt une intuition positive de. Mm-hmm.
Ben, c'est une intuition que tu dois faire quelque chose, mais c'est sûr que là, tu as d'un seul coup plein de barrières mentales, là, surtout avec tous tes conditionnements, avec la timidité, les machins, les trucs. Je veux te dire, c'est sûr que là, pour y arriver à le faire, si tu as l'intuition qu'il faut que tu ailles parler à un tel que tu vois là-bas, c'est super important pour ta carrière ou peu importe quoi, puis là, tu es comme. Ok, là tu peux pas y aller. Là, c'est sûr que ça va être tough pour le faire. Là, faut être dans l'instant. Dans ce cas-là, t'es dans la conscience. Et là, tu vas, puis là, aucun problème. Là. Mais là, c'est autre chose. Là aussi, là, c'est comme déjà, il faut avoir fait le travail sur toi là pour la timidité, etc. Parce que t'auras beau avoir l'intuition, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Bah non, tu vas être figé là et t'iras pas.
Je ne sais pas si nécessairement que t'as besoin de faire autant de travail. Des fois, il y a des situations qui se défoule ou se déroule d'une manière telle que on dirait que c'est une porte ouverte. Je pense en ce moment qu'est-ce qui m'est arrivé en 91. J'ai eu une occasion de faire un voyage, de rencontrer une Américaine dans un voyage de plaisance là, au Mexique. Et 11 mois plus tard, j'ai décidé de quitter mon travail après avoir travaillé pour la compagnie 10 ans, que j'aurais pu encore travailler jusqu'à aujourd'hui, non? Parce que c'était un genre d'emploi que tu pouvais garder à vie. Et je l'ai rencontré le soir où je suis arrivé au Mexique. Et puis, 11 mois plus tard, je l'ai marié. Et j'ai vécu 17 ans aux États-Unis. Et c'était presque un coup impulsif parce qu'en 11 mois, c'est assez rapide pour se marier quand tu ne connais pas personne. Mais en recul, les cadeaux que j'ai eus de cette expérience-là sont immenses, sont nombreux. Et je ne changerais rien en termes d'expérience vécue de ce côté-là, à part peut-être une couple de petits détails. Mais dans l'ensemble, j'ai vu tellement de choses, j'ai appris tellement d'affaires, j'ai appris à être un homme d'affaires, j'ai appris à être indépendant, j'ai appris c'est quoi l'autosuffisance, j'ai conçu une maison solaire, des choses expérimentales que personne ne fait. Je ne sais pas combien de couchers de soleil qui sont enregistrés dans ma mémoire, qui sont spectaculaires, des cieux, le ciel ouvert, des montagnes, des rocheuses. Vivre des panoramas comme ça aussi longtemps, aussi souvent, je suis content d'avoir fait, puis je suis content d'avoir pas attendu trop longtemps pour le faire parce que j'avais le choix de rester au statu quo. J'avais ma job, mon fonds de pension, ce truc-là. Mais j'ai tout envoyé ça en l'air parce que c'était un peu comme il y avait un homme qui s'appelle Jean-Marc Chappé qui a écrit un livre sur les ventes à un moment donné, puis qui avait dit je l'ai peut-être eu de quelqu'un d'autre, mais il y a trois types de personnes dans la vie. Puis il y a une parade qui se passe dans la rue, hein, puis il y a des gens qui regardent la parade, ah, qui aimeraient ça être dans la parade. Il y a des gens qui font la parade et puis qui vivent la parade, puis une troisième sorte de gens qui n'ont pas une hostile idée qu'une parade qui se passe. Donc, dans le sens que des fois, il faut que tu agisses, et puis c'est ça ton intuition aussi, des fois, ça se manifeste comme ça. Et voilà.
OK.
Et pour mon prochain numéro...
Il faut apprendre à se faire confiance dans cette voie-là, puis à faire le calme aussi. Moi, j'ai eu une période où j'étais tellement high dans la lumière, etc., que je touchais presque plus à terre. Et là, j'ai commencé à entendre des voix. Sauf que moi, c'était beaucoup d'écriture automatique que je faisais à ce moment-là. Et puis, je disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Je lisais beaucoup Carl Jung à ce moment-là qui m'avait amené dans l'idée que c'était bon de poser des questions et puis tu avais des réponses incroyables. Et ça m'a guidé beaucoup là, à revenir sur la terre. Ça me disait, bon, ce soir, va à telle place dans un bar, va voir tes frères et sœurs dans son large. Là, j'étais tellement rendu angélique, lumineux que...
Tu touchais pas à terre.
Presque plus, tu sais, après près de 10 ans d'être social, de ne pas avoir travaillé, de ne pas être dans la société, j'en étais à un point où c'était critique. J'avais fait du yoga à ce moment-là, j'avais fait beaucoup de drogues psychédéliques, je m'étais entraîné, j'avais lu comme un défoncé. Donc, j'étais rendu tellement loin que plus personne ne comprenait ce que je disais, ce que je faisais. Et là, c'était important. Et cette intuition-là était très forte. Mais en même temps, il fallait que je me concentre. J'avais toujours mon petit calepin. Même quand j'allais dans ce bar où j'étais de toute façon tout seul parce que j'avais pas d'amis à ce moment-là, et j'écrivais. Puis ça me disait quoi faire, comment. Puis tu sais, peu à peu, je suis revenu. Et puis là, j'ai eu d'autres rêves qui m'ont dit, par exemple, de remettre le mouvement jovialiste en marche. C'est toutes des choses que j'aurais pu ne pas voir parce que c'est venu en rêve la majorité du temps. Mais moi, je prenais extrêmement au sérieux mes rêves. Et puis j'ai agi. Donc, une source d'intuition forte, et ce sont les rêves pour moi. C'est-à-dire que ça, souvent, le rêve va te dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Et ça m'est arrivé souvent d'avoir des maîtres, par exemple, qui venaient me voir. Ils me disaient, ben là, t'es pas vraiment dans... T'enseignes pas la bonne chose. J'étais très proche de Ken Wilber dans mes études. Et puis, j'avais commencé à enseigner la théorie intégrale sur Second Life, la réalité virtuelle. Et puis... Mais je mélangeais des choses avec les drogues psychédéliques. Je mélangeais tout ce que j'avais compris. Puis, mon ami, il est venu me voir en rêve. Il était vraiment en colère. Il me traitait de stupide. Mais c'était pas moi, j'étais à côté de lui. Mais en voyant le rêve, je me suis rendu compte que c'était vraiment moi. Puis, il était fâché parce que j'enseignais tout croche. Et où je prenais des libertés. Je pense que j'avais raison. Mais je prenais trop de libertés. Donc, il était venu m'avertir. Et ça, c'est important. Ceux d'entre vous qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont rêvé la nuit, je crois que vous êtes des dangers publics. Parce que souvent, les rêves vont nous aider à nous remettre en piste quand notre mental ou quand notre personne n'est pas capable de voir la vérité. Mais trop de gens aujourd'hui ont perdu ce contact avec les rêves.
Maintenant aussi, le rêve aussi, cet aspect-là de communication, parce que tu parles d'un bénéfice par communication imagée la nuit, mais ça peut aussi arriver le jour. Hein. Ça peut aussi arriver dans une réflexion. Ça peut être aussi arriver quand tu es dans la lune, à un moment donné. Ça peut arriver dans différents instants. C'est pas nécessairement juste la nuit. Hein.
Ben, en fait, moi, j'ai réalisé qu'on rêve 24 heures sur 24. Sauf que quand on se réveille, nos yeux de chair se réveillent, puis on devient axé sur le monde physique. Pour la majorité des gens, c'est que le monde physique, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Moi, j'ai appris à garder mon troisième œil ouvert, de garder toujours. Donc, si la nuit, je vais voir ma mère, par exemple, dans mon rêve, le jour, ben, je vais peut-être y penser. Je vais penser à elle. Et donc, je vais arrêter, puis je vais réfléchir à pourquoi elle pense à moi.
Mais je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, quand tu dis, ça peut arriver quand tu pars dans la lune et tout ça. Moi, c'est souvent quand il m'est arrivé quelque chose, c'était plus dans ces moments-là. Tu sais, c'était pas forcément rêve, c'était plus dans ces moments-là où je chantais très fort. Ouais, tiens, ok. Puis pour moi, c'est aussi fort le positif que le négatif. C'est juste une sensation que je te dirais différente, mais pour moi, elle n'est pas moins forte ou plus difficile à reconnaître. Je sens que c'est ok, soit ça va bien se passer, soit c'est là qu'il faut que j'aille, peu importe, mais ça m'est déjà arrivé. Puis moi, il y a un exercice que je fais souvent, mais juste parce que. C'est pour les gens qui me sont les plus proches, ça marche pas avec tout le monde, mais pour les gens qui me sont les plus proches, si vraiment à un moment donné on est séparés depuis très longtemps ou juste je veux savoir, et je me suis souvent exercée, c'est de sentir si je pouvais savoir s'ils allaient bien ou pas. Et quand je le fais vraiment, quand je fais vite, c'est comme une mini méditation pour partir, puis je me concentre sur la personne vraiment. À un moment donné, quand je me laisse, j'ai l'impression de descendre un peu. Je sais pas, c'est très dur à expliquer comme sensation, mais j'ai toujours réussi à savoir exactement comment les gens allaient. Et les fois où de toute façon les gens qui me sont le plus proches ont eu un problème, j'ai toujours senti, mais. Ça n'a pas pris deux minutes, quoi. J'ai toujours su exactement, même il y a des gens qui me disaient, mais comment tu sais, je l'appelais, ou fallait que je le sache, mais j'ai toujours senti bon ou mauvais. Puis j'aime bien faire cet exercice. Et plus récemment, dans l'application, j'ai fait quelque chose d'un peu plus, bah, là, pour le coup léger que tout le monde peut faire, en fait. J'avais rendez-vous avec des amis dans un parc. Un très grand parc, parce que c'est le parc Maisonneuve, donc il est quand même grand. Et je ne savais pas de quel côté. Donc je me suis dit, c'est bien sympathique, mais une fois arrivée là, en plus j'étais chargée de ça, je me dis, bah, ils sont où? Puis j'essaye de les joindre, pas de réponse. Je me dis, bon, d'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de tester quelque chose. J'ai fermé les yeux, mais je le faisais de temps en temps. Et je me suis dit, je vais essayer de voir vers quel côté il faut que j'aille, quoi. Et je me suis totalement laissée guider par mon instinct. De temps en temps, je referme les yeux, ah, ok, je sentais que ça devait être par là, etc. C'est comme un fil, tu sais, parce que c'est des gens qui me sont très proches, donc comme un fil de lumière, tu sais, je te suis. Et je suis arrivée, puis à un moment donné, bon, ça faisait quand même, j'ai marché un bon 20-25 minutes. Puis à un moment donné, bon, je m'arrête, puis je dis, ok, c'est bon, mais tu sais, c'est plus mon côté mental qui a dit, ok, j'en ai marre, là, il faut le trouver. Et du coup, je les appelle, ils décrochent, miraculeusement. Ils me disent, ah, bon, on est là. Et en fait, je me suis retournée, j'ai fait le tour d'un bosquet, j'ai marché 5 pas, ils étaient là. C'était vraiment, ils étaient juste à côté, donc j'étais vraiment pas loin. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement,
je pense. C'est très bon, ça. C'est très bon comme exemple, ça. Et puis, ça appelle aussi un peu à l'ouverture et de la relaxation de l'imagination ou notre potentiel imaginaire. Parce que c'est vraiment comme ouvrir un robinet sur l'information. On parle des fois à l'imagination, puis on la relègue à une valeur inférieure de quelque chose qui est concocté artificiellement, quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et de laisser libre cours à notre imagination. Je pense que c'est peut-être notre bouée de sauvetage dans cette vie, c'est l'utilisation de l'imagination.
Moi, en un sens, je vénère la femme à cause de cette intuition très forte. Moi, je vous dis ce que vous pensez, c'est une théorie, mais je me suis dit, les femmes, la majorité des femmes sont extrêmement intuitives, comparées aux hommes qui sont très rationnels, qui vont. Et puis, je pense qu'à travers l'histoire, c'était que les hommes, on était tellement plus forts physiquement qu'on allait régler les choses avec nos poings, alors que la femme, pour survivre, devait écouter cette intuition. Et je pense que c'est devenu un atout extrêmement important que les hommes devraient écouter aujourd'hui, un peu comme moi. Qui a appris de ma compagne alors que je pensais même pas que c'était comme ça que ça pouvait se faire. Et je le faisais par moi-même, intuitivement, mais en la voyant faire, j'ai compris que c'était un atout d'avoir des femmes dans ma vie parce que les femmes sont très intuitives.
Un homme grandit beaucoup plus vite avec une femme.
Ou plus. Yeah. OK, on va prendre une pause musicale avec Kenny Arcana et réveillez-vous. Et on revient après la pause avec ce thème... Ne pas se désobéir.
Ça peut l'injustice. vif et la tempête est programmée. Tu vas de plus en plus vite, où la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, informe l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvelle ordre officieux, terrorisme officiel. Les gains multiples pour instaurer la surveillance et la peur éteignent la télé. Et leurs émissions d'arriérés éteignent la télé. Avant de finir complètement aliénés, propagande de peur pour une soumission officielle. Métro blonde, odontométrie et fichale. Les rebelles groupes ils s'entolent. Campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus encore. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Et pour bientôt, peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'État bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Une prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclus en propageant l'exclusion. Exploitent les plus pauvres avant la case expulsion. Pour la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Ouais, je les vois, les dérange, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils ne pourraient plus semer le chaos. Nous, on croit pas en leur justice, nous, on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi, tant qu'ils n'y croient plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Tempête a commencé avant même de combattre. De frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armées soient des clones. Air du nucléaire, saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus gros médias apportent nous usines d'armement. Alors comprendre à quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peuple. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. La vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Ne pas se désobéir ». Vous connaissez tous des gens qu'on pourrait appeler les yes-men ou les bénis oui-oui. C'est pas très usuel, mais c'est des gens qui vont toujours dire oui au point de s'oublier totalement. Donc, le yes-man. Il y a même une émission, un film qui a été fait sur un gars qui disait toujours oui.
Avec Jim Carrey.
J'ai jamais entendu ça. C'est
non,
trop génial.
Un yes-man. C'est quelqu'un qui va dire oui, qui est soumis. Qui se soumet à ce que les autres vont lui dire. Bon, au Québec, il y en a beaucoup, parce qu'on a été soumis extrêmement longtemps à l'Église et puis à l'État. L'Église était soumise à l'État, et puis bon, on est devenu un genre de peuple soumis par la force des choses. Et même si depuis peut-être 60 ans, les Églises sont en train de faire faillite, l'Église, les gens sont sortis des Églises, mais l'Église n'est pas encore sortie. Des gens au Québec, en tout cas. Je pourrais pas parler en Europe, par exemple, là, mais ici, c'est évident. Mais l'Église nous amène à nous soumettre. Hein? L'islam veut dire soumission, d'ailleurs. Moi, je suis anti-soumission. T'sais. Je veux pas me soumettre, à moins que la personne, ça vaille la peine. Si c'est un professeur, je vais me soumettre à son enseignement parce que je veux apprendre. Un peu, si je vais apprendre la salsa, je vais me soumettre, je vais...
Mais peut-être le mot soumettre ici est un peu fort pour dire aller à l'école la salsa. Là, tu sais, je ne vais pas faire une. Je vais
essayer de donner un exemple un peu plus simple pour me
mettre en sahana, comme au yoga, là, tu sais, puis me soumettre devant. Mais je comprends ce que tu dis. Il faut que tu permettes une ouverture si tu veux apprendre quelque chose ou ajouter une nouvelle notion, des nouvelles notions. Donc, il faut que tu coopères avec le processus d'enseignement qui est offert. Mais c'est pas... Oui, tu viens de dire quelque chose d'important. Moi, j'appelle ça être souverain de ma propre conscience et tout alentour veut le contraire. Tout alentour dans la société veut le contraire. Tout veut t'amener à être conforme. C'est vraiment une agression contre ta conscience totalement. Et on la retrouve dans tous les aspects de la vie. Et il faut vraiment être délibéré dans notre approche pour reprendre notre souveraineté de conscience. Puis c'est pas une souveraineté politique, c'est une souveraineté de conscience en premier lieu.
Être son propre maître. Mm-hmm. Moi, je propose justement qu'on commence à enseigner ça. Mais ça, ceux qui, à travers l'histoire, ont voulu enseigner ça, ont été persécutés. On arrive peut-être à un moment où c'est possible un peu plus, mais c'est quand même un moment de centralisation. On est au point où il est en train de se former un gouvernement central sur la Terre, où tout va nous être imposé. Donc, j'ai l'impression que c'est ici maintenant que ça se passe. J'aime bien Anonymous, mm-hmm. qui ont des vidéos un peu revendicateurs. Je ne sais pas si vous connaissez Anonymous, non?
Oui, c'est le truc avec le masque, là, basé sur le V for Victory, c'était ça, V for Victory, le film, avec Natalie Portman. Non?
Je trouve ça très inspirant qu'il y ait une certaine place, ou qu'il y ait certaines personnes qui sont comme ça, puis on puisse les voir, parce que j'imagine que si j'aurais été le même il y a 100 ans ou 500 ans, mais si j'avais pas eu l'Internet ou j'avais pas eu de connexion avec d'autres gens comme moi, j'aurais pu trouver ça extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, je suis capable de me connecter avec vous, par exemple. Je suis capable de trouver, il y a comme des chemins qui permettent de se connecter entre nous.
Mais j'aimerais faire une remarque là-dessus. Tu donnes un exemple, Vivica Victory, comme un exemple, d'après ce que tu veux dire, d'opposition au status quo. Et puis, tout ça, c'est bien. Mais l'histoire nous montre que tout le monde se fait acheter à un moment donné. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à s'infiltrer dans le réseau de X, Y, Z pour des fois corrompre l'intention originale. Tu sais. Je vais juste mettre ça de côté pour faire penser que la solution de la souveraineté, elle ne va pas se situer dans des exemples externes à soi. Elle ne sera pas une peinture sur un mur. Ça ne sera pas un message dans un CD. Ça ne sera pas nécessairement ça. Ça va être une expérience interne. Il faut vraiment que ça se passe à l'interne en premier. Autrement dit, il faut qu'on quitte cette... on a déjà discuté généralement de ça, la dualité, puis faire une expérience du tout à l'interne, en premier. Et qu'est-ce qui arrive, qui est magique, c'est que quand tu fais cette expérience-là, tu vois que tu es en partnership avec l'externe. Et que c'est un tango. Mais
un buffet?
Un buffet, c'est un tango. Le buffet est tout là-dedans. Et c'est un mot, c'est parce que c'est une danse dans ce sens-là. Uh-huh. C'est vraiment personnel, cette affaire-là. Là. C'est vraiment unique à chacun. Les mots que j'utilise ne vont pas être les mêmes pour quelqu'un d'autre, mais ça ne sera pas dans une bouteille, dans une boîte de carton sur une tablette que le message va sortir. Là. C'est ça que je veux dire.
Et c'est difficile aussi de faire changer les gens. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ne s'obéissent pas, et j'essaie de leur apprendre parce qu'ils veulent interagir avec moi, puis j'ai beaucoup de misère avec des gens très soumis. Alors, en tentant de leur apprendre, tu vois qu'ils ont des résistances. C'est comme pas naturel d'écouter vraiment ce qu'ils veulent faire. Surtout dans certaines cultures, là. Il y a des cultures plus traditionnalistes où la femme n'a absolument rien à dire. Ici, au Québec, les femmes sont très, très fortes. Là. C'est un peu le contraire. Ici, c'est l'homme qui est l'homme rose ou l'homme qui ne s'écoute pas souvent. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, là, mais tu as l'homme qui va dire oui, oui. Parce que la femme est tellement forte et tellement dominante au Québec.
Il n'y a même pas d'homme au Québec, moi, je dirais.
Oui, c'est
ça. Parce que ça fait... depuis 80 ans, je suis là. À chaque fois, en France, on me dit « Alors, les hommes, je fais quels hommes ?» Pas d'hommes, là. Ils draguent pas, ils font rien, et ils proposent rien. Ça, c'est comme, ok, c'est toute la femme qui fait tout, là. C'est, je me sens pas du tout femme, là. Je me sens mec, moi, ici.
Ici, c'est l'inverse. Moi, je mets ça sur le dos du féminisme, qui est un peu trop extrême. Ouais. La femme est devenue un homme au Québec, et les hommes sont devenus des femmes, par ricochet. Donc, les femmes sont dominantes. Tu sais, moi, j'aime bien les latinas, et puis là, tu vas lui ouvrir la porte, ça lui fait plaisir ici. Alors, si tu ouvres la porte à une femme, on va dire « Hey, je suis capable d'ouvrir la porte moi-même. »
C'est tellement ridicule, cette histoire d'égalité, je trouve.
Oh, mais du coup, c'est très bizarre quand tu viens de l'étranger, toi. Moi, depuis que je suis ici, c'est vrai que ça m'a posé un certain nombre de questions sur les relations hommes-femmes. Quand tu te dis comment ça fonctionne ici, tu sais, parce que tu n'es pas forcément habitué à les faire, les premiers, puis là, il se passe juste rien. Tu fais, bon, est-ce que j'ai mal compris ? Est-ce que c'est... Ouais, qu'est-ce c'est qui se passe ?
Moi, j'ai déjà vu une copine, elle est restée un an et demi ici, mais elle est partie à cause des hommes. Hein. Elle n'a pas pu rester à cause des hommes. Elle dit, bon, je pars, parce qu'ici, vie privée, oublie ça, quoi.
Il faut que tu attendes ici, parce que si l'homme va vers la femme, elle ne veut rien savoir, parce que c'est elle qui décide. Donc, il faut que tu laisses les femmes venir ici. Ouais. En Europe, je pense que c'est différent, la drague.
Bah ouais,
les hommes vont aller au-devant.
On voit que c'est l'homme, là. C'est l'homme, il est là. On voit, il est présent.
Et en Amérique latine, c'est la même chose aussi. Les hommes sont extrêmement présents.
oui, en effet, je seconde tout ça.
Alors, le Québec est un endroit très spécial. On a été tellement isolés. On est un peu comme les comme Astérix et Obélix. Les irréductibles québécois dans leur
Il leur manque la potion, en tout cas.
Mais Obélix, il drague. Je m'excuse, mais il fait des déclarations, au moins. Ce
ah ouais, c'est Obélix.
C'est ça.
Ouais. Il s'impose.
Bon, mais t'apprends. Je veux dire, si à un certain point, tu vas toujours vers... En tout cas, en tant qu'homme, tu vas toujours vers les femmes québécoises, puis tu te fais rebrousser... Parce que tu as fait ce mouvement-là, tu apprends à dire non, je vais attendre.
Ah, mais c'est ça, mais du coup, c'est problématique parce que nous, comme on est conditionnés dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, à chaque fois que. Enfin, tu sais, moi, j'ai souvent entendu, j'avais des copines légèrement plus entreprenantes que moi, et je les voyais, et puis, tu sais, tu te fais traiter de salope parce que tu as été voir le gars, quoi. Donc, nous, on est conditionnés dans l'autre sens, donc du coup, c'est un peu compliqué de se rejoindre et de se comprendre là-dessus.
Un peu, en fait.
Et moi, j'ai eu des conversations assez surprenantes quand je suis arrivée au départ avec certaines. J'étais invitée dans. Quand je suis arrivée à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer des gens à la fac, donc j'étais invitée dans des soirées à un moment donné. Puis je parlais avec des Québécois, j'étais super étonnée parce qu'on n'envisage pas les choses du tout de la même façon. Ça, je me suis dit, ok, on n'a vraiment pas la même culture et les mêmes façons de faire, c'est vraiment étonnant. Pourtant, on n'est pas si éloignés, mais quand même.
Il y a peut-être un vestige qui reste encore, c'est quand tu prends des leçons de salsa.
Toujours, je reviens
à salsa. Ça reste. Ça te ramène justement à une tradition où est-ce que c'est l'homme qui doit mener.
Ben d'ailleurs, j'ai tamé avec une professeure et puis elle me disait c'était ça le problème. Les femmes ne se laissent pas guider, les hommes ne guident pas.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, on l'avait dit ça aussi en tango.
Mais même dans d'autres danses. Moi, j'ai pris un cours d'une danse, je ne sais plus ce que c'était, une danse américaine. Et franchement, c'est vrai, je n'étais pas guidée du tout, quoi. C'était très étonnant, parce que moi, quand je ne connaissais pas les pas, si la personne ne me guidait pas, ça ne marchait pas. Donc, on était là deux patates jusqu'à ce que je danse avec le prof qui, lui, là, effectivement, j'ai pu le suivre sans problème. Puis comme j'adore la danse, ça ne me dérangeait pas, mais c'est vrai que ça aussi, c'est étonnant.
Ah, c'est sûr, on le ressent dans ce genre de... Parce qu'au contraire, c'est justement dans ce genre de danse, c'est super important que l'homme mène et domine. Mm-hmm. Alors là, moi aussi, j'en ai fait le tango, je suis mon Dieu, c'est quoi ça? Il mène pas tout, puis moi ça m'énervait, puis c'est moi qui vais faire l'homme, puis j'ai fini par faire l'homme, imagine le truc.
Oui, c'est très. C'est ce qui rend les cours de salsa très déplaisants quand ça arrive.
L'homme doit mettre sa petite jupette. Là.
Moi, je suis très dominant, et puis c'était naturel, mais les femmes étaient surprises que je sois capable de les guider, puis je suis quand même un débutant, là, mais j'ai ça dans. C'est naturel pour moi de prendre le lead, d'être un dirigeant, de diriger un paquet de projets. Mm-hmm. Donc, en danse, je l'ai fait naturellement, mais je voyais qu'à quel point c'était pas évident pour elle. Puis souvent, les femmes ne voulaient pas tourner, c'est surtout les Québécoises. Il n'y a rien à faire. Là, tu lèves le bras, puis c'est elle qui décide. C'est là, voyons, c'est qui le boss ici.
Quand je veux.
Mais bon, si on revient à ne pas s'obéir, faudrait que les femmes apprennent à obéir aux hommes là, au Québec. Et voilà. Au Québec. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien à faire. Là. Il n'y a rien à faire. Les femmes sont extrêmement dominantes ici. Mais je pense que ça peut être bon aussi dans certains aspects. Mais c'est si les deux sont dominants, puis il y a un bel équilibre et un respect, il n'y a pas de problème. Mais s'il y en a un des deux qui l'est tellement que l'autre est obligé de se soumettre, à long terme, c'est très mauvais pour la personne qui s'est soumise. T'sais. Au début, elle veut faire plaisir à sa conjointe ou à son conjoint, mais après des années, il va passer à côté de sa propre vie.
Je ne suis pas sûr que les femmes pensent comme ça. Je pense que souvent, dans certains, en tout cas, dans une couche, une strate de ça qui se doit d'être plutôt quelque chose que l'homme doit être gérable.
Tu vois, moi, ça ne fonctionne pas très bien avec les Québécois. Présentement, j'ai une Colombienne. Depuis les dernières années, j'ai eu des Latinas. Mm-hmm. Parce que là-bas, ça fonctionne bien. Mm-hmm. Homme et... Ouais. et homme dominant, femme, pas nécessairement dominée, là, mais...
Il faut savoir que le fantasme aussi de tout dominant, c'est d'être dominé aussi. Hein?
Oui, mais c'est peut-être pas nécessairement ça qu'on parle. Là.
Mais on pourra en faire le sujet dans la prochaine émission. Là, il y en a qui voulaient parler de sexe, alors dans les prochaines émissions, on parlera de sexe. Ouais, on... Le bonheur du sexe.
Je vais te raconter une anecdote. Mais on va passer.
C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous. On vous laisse avec une chanson qui s'appelle « Juste quelqu'un de bien ». Mais je sais pas de qui.
Il y a quelqu'un de bien.
Ça devait être une chanteuse qui est bien. Mais... Eh bien, merci à vous d'avoir été parmi nous. Bonne semaine à
merci
tous.
À vous.
Bonne
merci.
Semaine.
Merci à Radio Centre-Ville et à Radio H2O d'avoir diffusé notre émission. Et puis, on vous invite à venir sur proposlebonheur.com.
Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terre aride Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal Une réponse n'apaise mes questions à la verticale Je dis bonjour à la boulangère Je tiens la porte à la vieille dame Des fleurs pour la fête des mères Et ce week-end à Amsterdam Pour que tu m'aimes encore un peu Quand je n'attends que du mépris L'heure où s'enfuit le bon Dieu qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un.